Vendredi soir, le président des États-Unis a monté sur une scène à New York devant une foule en délire et il a annoncé qu'il allait annexer un détroit. Pas n'importe quel détroit, bien sûr, vous l'avez deviné, le détroit d'Ormuz, un bras de mer de 39 km de large entre l'Iran et Oman, par lequel transite, allez, une partie énorme du pétrole de la planète. Et une fois qu'il aura gagné la guerre, il déclarera donc le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. Et vous savez de combien le pétrole a bougé après cette annonce, après cette déclaration? 0,4%. 0,4%. Autant dire rien du tout. Le prix du baril a réagi à l'annexion d'un des points les plus stratégiques de la planète, comme il réagirait à une grève de 3 heures dans une raffinerie belge. Et je vais vous dire un truc. Ça, c'est infiniment plus inquiétant que si le baril avait pris 20%. Parce que si le marché ne réagit plus à ce genre de nouvelles, c'est qu'il est en train de regarder autre chose. Quelque chose de beaucoup plus moche. Et ce quelque chose, on va en parler dans les 15 prochaines minutes. Non, c'est pas que des trucs bearish, c'est juste des trucs factuels qu'il faut connaître en ce moment. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. On est le lundi 17 août 2026 et je suis Thomas Bayet. Aujourd'hui, on va parler d'un marché qui s'ennuie tellement que je suis à deux doigts de me mettre au macramé.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Commençons par planter le décor déjà, parce que la semaine dernière, le S&P 500 a gagné 0,4%. Et en gagnant 0,4%, il a réussi à inscrire son 27e plus haut historique de l'année. Et on est mi-août. Si vous faites le calcul, ça fait quand même un record tous les 6 jours depuis le 1er janvier. Mais le vrai chiffre de la semaine, il est un tout petit peu ailleurs pour l'instant, c'est le Nasdaq. Hein. Le Nasdaq, vous savez, c'est cet indice qu'on dit qu'il est nerveux, c'est le plus nerveux de la planète, celui qui vous fait plus ou moins 3% parce qu'il y a un analyste qui a éternué pendant une conférence. Eh ben le Nasdaq, il n'a pas bougé de plus de 1% une seule fois en 5 séances, ni à la hausse, ni à la baisse, pas une fois. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis le début du mois de mai, 3 mois et demi. Alors, on appelle ça un marché attentiste, c'est le mot qu'on emploie à la télé quand on veut avoir l'air sérieux. Moi, je vous propose une traduction plus honnête. C'est un marché qui s'emmerde profondément. Pour l'instant, on tourne en rond dans le salon, on ouvre le frigo, on referme le frigo, on retourne au frigo, on ouvre le frigo, on referme le frigo. Et puis cette semaine, ça risque bien d'être pire parce qu'il n'y a aucune statistique de premier rang, de trucs vraiment importants. Rien. Le prochain vrai rendez-vous important macro, c'est Jackson Hole. Ce sera le 27 août. Autrement dit, dans 10 jours. 10 jours de vide intersidéral de news macro. Heureusement, il y aura quand même 2-3 chiffres. On va dire micro. Et vous savez ce qui arrive quand un investisseur s'ennuie? Bah, c'est exactement comme un ado à qui vous avez laissé une carte de crédit sur la table de la cuisine pendant que vous êtes parti en week-end. Il va pas rester là à rien faire, il va trouver quelque chose à faire et ça va coûter beaucoup, beaucoup trop cher à quelqu'un. Mais pendant que tout le monde regarde les indices ne rien faire, il y a un marché qui lui est en train de hurler et personne ne l'écoute vraiment. Ce marché, c'est le pétrole. Et là, alors, accrochez-vous parce que c'est un petit peu le cœur de la vidéo de ce matin. Là, tout de suite, nouvelle semaine, le Brent se traite à 88,80 $ sur le mois d'août. Il est en baisse de 1,7%. Le détroit d'Ormuz est fermé, il est fermé depuis 6 mois. La marine américaine promet un blocus indéfini de l'Iran. Un tanker de plus s'est fait canarder ce week-end. Les négociations entre Washington et Téhéran sont au point mort de chez point mort. Et le Trésor américain vient donc de lancer ce qu'il appelle une isolation économique sans précédent de l'Iran. Presque ils auront engagé Bruno Le Maire comme consultant. Et le baril, bah lui, il baisse depuis le début du mois. Il y a 6 mois, n'importe laquelle des phrases que je viens de vous citer, prises toutes seules, hein, vous envoyez le baril au-dessus de 100 $ avant même qu'on ait fini de lire le communiqué de presse. Aujourd'hui, on peut vous balancer les 5 d'un coup, en même temps, le baril, il hausse une épaule, et puis il retourne touiller le café. Alors la question ce matin, c'est pourquoi? Et attention, hein, parce qu'il y a la mauvaise réponse et la vraie réponse. La mauvaise réponse, celle qui traîne partout, c'est « oui, parce que la guerre est en train de se terminer ». Non, la guerre ne se termine pas du tout, elle n'est pas en train de se terminer. Personne, absolument personne, ne croit plus à une réouverture du détroit d'Ormuz à court terme. La vraie réponse, elle est beaucoup moins sympathique. Le monde est en train d'apprendre à consommer moins de pétrole. Et pas par écologie, hein, pas par vertu non plus, pas par transition énergétique, et pas non plus parce qu'on aime les ours polaires, simplement par appauvrissement. L'Agence internationale de l'énergie vient de sortir sa nouvelle prévision. La demande mondiale de brut va reculer de 1,6 million de barils par jour en 2026. Et attention au détail, hein, parce que le détail est plus violent que le chiffre lui-même. C'était pas la prévision d'origine. Il y a un mois, ils annonçaient 510 000 barils de moins. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'en 30 jours, l'Agence internationale de l'énergie a perdu 1,5 million de barils par jour. Ils se sont réveillés un matin, ils ont recompté et 1,5 million de barils quotidiens avaient disparu. Pouf ! Bon, 1,6 million de barils par jour, ça veut rien dire pour un être humain normal, mais un baril, c'est 159 litres. Donc on parle de 254 millions de litres de pétrole. Et si vous voulez une image qui parle bien de chez nous, c'est 7 fois la consommation quotidienne de la Suisse entière. 7 fois. Essence, mazout, kérosène, tout compris. Cette consommation de la Suisse qui s'évapore de la demande mondiale chaque jour et personne ne trouve ça inquiétant. Et c'est même pas fini, hein. Pendant que la planète entière est censée manquer de brut à cause d'Hormuz, les stocks commerciaux américains ont bondi de 17,4 millions de barils en une semaine. Une semaine normale, c'est entre 5 millions et 1 million. Et là, on est à 17,4. C'est la deuxième plus grosse reconstitution de stock de l'histoire des États-Unis. Et le plus beau, eh ben, les analystes, ils attendaient une baisse de 600 000 barils. Ils se sont trompés de sens et de 30 fois en termes d'amplitude. Bravo. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Et si vous devez retenir qu'une seule phrase de cette vidéo, c'est celle-là. Un baril qui ne monte pas pendant une guerre, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est un diagnostic. Le marché du pétrole est en train de nous dire quelque chose sur l'économie mondiale que le marché des actions refuse catégoriquement d'entendre. Et quand ces deux-là ne sont pas d'accord, en général, c'est pas le pétrole qui a tort à la fin. On n'est pas encore à prononcer le mot qui commence par « ré » et qui finit par « sion », mais disons que si l'Amérique redevient « great again », le reste du monde est en mode « sortez les rames » et commencez à ramer. Alors là, vous êtes en train de vous dire « bon d'accord, c'est pas génial pour l'économie mondiale, mais au moins mon plein va coûter moins cher ». Que nenni ! Mais que nenni ! Le gallon d'essence aux États-Unis ce week-end était à 4,07$. Il y a un an, jour pour jour, il était à 3,14. 30% de hausse hein, en 12 mois, pendant que le brut est monté, soit, mais 30% quand même. Alors, où est passée cette différence finalement ? Parce que là, on voit que l'essence ne baisse plus, ne bouge plus. Eh bien, elle passe dans un truc qu'on appelle le « crack spread ». C'est un mot de salle de marché, mais le concept est simple. C'est l'écart entre le prix du baril de brut et le prix de l'essence qu'on en tire. Autrement dit, la marge du raffineur. Et ce crack spread vient de taper son plus haut niveau de toute l'histoire. Record absolu. Je vous fais l'image. Le brut, c'est la farine. L'essence, c'est le pain. Vous suivez le cours de la farine tous les jours sur votre téléphone. Vous voyez qu'il baisse et vous vous dites « super, la baguette va être moins chère ». Sauf que le problème n'a jamais été le blé. Le problème, c'est qu'un tiers des boulangeries a fermé. Les capacités de raffinage mondiales se font massacrer par les conflits et les arrêts d'installation pendant que le brut, lui, continue de couler gentiment. Résultat des courses, pour vous, pour moi, le baril baisse, la pompe monte et personne, jamais, ne vous remboursera la différence. Vous pouvez suivre le Brent minute par minute sur trois écrans en même temps, ça ne changera rien aux chiffres affichés sur le grand panneau quand vous vous arrêterez sur l'autoroute du soleil. Et pendant qu'on regarde ailleurs, petite parenthèse, mais elle vaut quand même le détour, la dette américaine se monte ce matin à 39 920 milliards de dollars. 40 000 milliards, on y est presque. Hein. Le compteur tourne comme le compteur d'un taxi coincé dans un embouteillage et personne dans ce pays n'a l'air pressé de descendre de la bagnole. Et pendant qu'on ne s'excite plus sur le pétrole, la question à Wall Street en ce moment, c'est plus de savoir quand est-ce que la Fed va baisser les taux, c'est de savoir si elle va les monter. On a passé deux ans, hein, à supplier que la Banque Centrale Américaine baisse ses taux, les stratégistes, les gérants, les commentateurs, les traders, tout le monde. Et là, en août 2026, le marché donne une chance sur trois à une hausse en septembre. On ne prie plus pour des baisses, on prie pour des non-hausses. C'est le nouveau standard du marché. Et l'homme au milieu de tout ça, c'est bien sûr Kevin Warsh, hein, le nouveau patron de la Fed. Warsh a fait un choix très clair, il ne dira plus rien. Fini les forward guidance, fini les petites phrases, fini les indices, débrouillez-vous avec les chiffres. Ce qui est assez rigolo, on va dire, c'est une posture absolument formidable aujourd'hui, quand on sait précisément que cette semaine, il n'y a quasiment aucun chiffre, ou presque. Donc, tout le monde va se rabattre sur les minutes de la réunion de la fête de mois de juillet, qui vont tomber mercredi soir. On va les décortiquer ligne par ligne, comme si nos vies en dépendaient. Et pour finir, mercredi à 20h10, exactement au même endroit où on était mercredi à 19h50. Bon, pas vraiment de macro cette semaine, donc la macro, elle sera dans les résultats des entreprises, et pas n'importe lesquels. Home Depot mardi, Lowe's Target et TJX mercredi, Walmart jeudi. Et je vais vous dire pourquoi Walmart, c'est pas une publication de résultats, c'est le rapport économique de la semaine. Walmart, c'est 250 millions de clients par semaine dans le monde entier. Quand la direction vous explique ce que les gens mettent dans leur caddie et à quel prix, bah vous en apprenez autant en 10 minutes qu'avec 3 mois de statistiques officielles commerciales du gouvernement mangouillées. Et ce qu'il faut écouter dans tout ça, c'est surtout pas le bénéfice par action. 85% des sociétés battent les attentes en ce moment, on l'a vu, battent les attentes, c'est devenu carrément le minimum syndical, ça ne raconte plus rien, ça ne veut plus rien dire. Ce qu'il faut écouter en revanche, c'est un seul mot, c'est le mix. Est-ce que les gens descendent en gamme? Est-ce qu'ils prennent la marque du distributeur au lieu de la marque officielle? Est-ce qu'ils repoussent les gros achats à plus tard? Parce qu'on a déjà un indice, hein, et il n'est pas joli. Les ventes de détail américaines de juillet sont sorties la semaine dernière à moins 0,6%. Le consensus attendait plus 0,1%. Première baisse en 9 mois. Alors bien sûr, on nous a expliqué immédiatement que c'était pas grave, parce que le Prime Day d'Amazon avait changé de mois et que les remboursements d'impôts s'étaient taris. Sauf qu'une fois qu'on a appliqué toutes les excuses, toutes les corrections, tout ce qu'on veut bien se donner comme justification, eh ben le chiffre à la fin, il baisse quand même, et sévèrement. Et le détail fascinant dans tout ça, c'est que les Américains sont en train de renoncer à changer de voiture, mais ils continuent d'aller encore un petit peu au restaurant. On coupe ce qui se remplace tous les 10 ans et on garde ce qui fait plaisir le vendredi soir. C'est pas de l'insouciance, c'est de la consolation. Et puis alors côté construction, ça sent un petit peu le sapin quand même, parce qu'aujourd'hui on aura l'indice de confiance des constructeurs qui va sortir, il est attendu à 33. Alors petit rappel, en dessous des 50, ça veut dire que les constructeurs sont pessimistes. Alors à 33, ils sont pas pessimistes, ils sont cliniquement morts. Bon, maintenant on prend un peu de recul et on met les pièces sur la table, parce que ces nouvelles, ces pièces de puzzle prises une par une, elles ont l'air anodines, assemblées, elles racontent une histoire un peu moins drôle. D'abord, en 1, la demande mondiale de pétrole s'effondre au point que même une guerre ne peut plus faire monter le baril. En tout cas, n'y arrive pas pour l'instant. En 2, vous avez le consommateur américain qui porte à lui seul à peu près 70% de l'économie du pays. Bah, il vient de reculer pour la première fois en 9 mois. En 3, vous avez les constructeurs de maisons qui sont à 33 sur une échelle de confiance où 50 veut dire pff, bof. En 4, vous avez la banque centrale qui, au lieu de venir à la rescousse en baissant les taux, réfléchit à monter les taux parce que l'inflation ne veut pas mourir. Et en 5, le marché action est à son 27e record de l'année. Vous voyez la dichotomie, le problème. C'est pas que le marché monte, le marché il a tout à fait le droit de monter, et j'en suis très content, même si certains d'entre vous pensent que je suis irrémédiablement riche. Non, le problème c'est que le marché monte en regardant exactement dans la direction opposée à tous les autres signaux disponibles. Alors bon d'accord, pas tous, hein. Pas tous les signaux sont pourris, mais ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une capacité phénoménale à ne pas voir les choses qui ne vont pas. Et c'est pour ça que je passe pour un clown à vous raconter tous les matins ce qui va pas. Ce que je vous dis, c'est que quand l'obligataire, le pétrole et le caddie de Madame Jacotet racontent tous la même histoire et que la bourse raconte l'inverse, historiquement, je suis pas sûr que tout ça doive bien se terminer. Le marché n'est plus très logique, mais il monte. Alors, je vais continuer à vous égrener les choses qui ne vont pas, tout en reconnaissant ce qui va bien quand même. Et le jour où je tourne bullish, bah là, vous pourrez commencer à shorter. Pour terminer cette vidéo, je vous ai gardé le plus savoureux pour la fin. J'en parlais au début, à l'ouverture. Vendredi dernier, il y a 3 jours, donc Trump a annoncé à la foule en délire qu'une fois la guerre terminée, il va déclarer le détroit d'Hormuz territoire des États-Unis. Un bras de mer annexé en direct à la télé entre 2 applaudissements. Et dimanche, un général iranien a répondu, pas par un communiqué diplomatique, pas par une note officielle de l'ONU. Non, juste sur les réseaux sociaux, en anglais, histoire d'être bien sûr, d'être bien compris. Il a expliqué que l'Amérique le regrettera amèrement et que ses forces sont prêtes à démanteler tout complot hostile. Donc voilà où on en est. Deux gouvernements, dont au moins un possède l'arme nucléaire, se disputent la propriété d'un plan d'eau à coups de poste sur Internet. Et la prochaine fois que vous ferez le plan à plus de 2 francs le litre, prenez 3 secondes pour vous et pour vous souvenir que ce prix-là, il était fixé par ces deux clowns-là. Voilà, c'est un petit lundi matin qui commence, mais on va sûrement trouver quelque chose pour mettre un peu d'ambiance. Je me réjouis déjà de vous en parler ces prochains jours. Et pour ne rien rater de tout ça, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français, activez la cloche, et puis likez, partagez, commentez. Et pour le reste, on se voit demain. Bye bye!
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.